Chapitre 19. Nathan Greenspan était le type même du juriste réfléchi et posé. Assis derrière son bureau, il nettoyait méthodiquement sa pipe avec un ustensile en forme de cuillère. Puis, après avoir soufflé dans le tuyau, il commença à la remplir, sans se hâter, tandis qu'Al Baker, son bout de cigare tenu à même le poing, marchait de long en large et exposait son point de vue. Il n'y avait qu'une chose à faire. L'avocat devait prendre le commissariat d'assaut et exiger qu'on relâche immédiatement son associé. Nathan Greenspan se rejeta en arrière et, entre deux bouffées, répondit lentement. Greenspan. « Je peux obtenir une ordonnance d'habeas corpus, à condition qu'il soit établi qu'on le détient injustement. » Baker. « Naturellement, son arrestation est injuste. » Greenspan. « Qu'en savez-vous ? » Baker. « Parce qu'il me l'a dit. Et parce que je le connais. Vous savez le type d'homme qu'est Mel Bronstein ? A-t-il l'air d'un assassin ? » Greenspan. « Vous venez de me dire que la police ne l'a pas arrêté pour meurtre, mais pour l'interroger. Il possède des renseignements utiles au bon déroulement de l'enquête, et il a admis qu'il était avec la victime la nuit où elle a été tuée. C'est tout à fait logique que la police lui pose quelques questions. Baker. En envoyant deux flics chez lui pour l'arrêter ? Greenspan. S'il s'était présenté de lui-même, aussitôt comme il aurait dû. Baker. Soit, il aurait dû aller les trouver, mais vous savez bien ce que cela signifiait. Il a pensé que son escapade demeurerait ignorée. Il a eu tort, mais ce n'est pas une raison pour que les flics viennent chez lui et le déshonorent devant sa femme. Greenspan. C'est comme cela que les choses se passent habituellement. Et de toute façon, il n'y a plus à y revenir. Baker. Qu'avez-vous l'intention de faire ? Greenspan. Allez le voir, naturellement. Ils vont probablement le garder cette nuit. Mais s'ils veulent prolonger sa détention, il faudra qu'ils le fassent comparaître devant un juge et qu'ils exposent leurs preuves. À mon avis, ils ont assez d'éléments en main pour l'arrêter définitivement s'ils le désirent. Le mieux que je puisse alors faire, c'est d'aller trouver l'avocat général du district et d'avoir chez lui tous les renseignements, toutes les charges qui le concernent. Baker. Pourquoi ne les obligez-vous pas à le relâcher s'ils ne peuvent pas établir sa culpabilité ? Greenspan poussa un léger soupir. Il posa sa pipe sur le cendrier et ôta ses lunettes. Greenspan. Écoutez-moi bien, Al. On a assassiné une jeune fille, et naturellement tout le monde veut qu'on découvre le meurtrier. Cela veut dire que tous les rouages de la justice joueront en faveur de la police et non en faveur du suspect. Imaginez que je recours au maquis de la procédure pour le faire rentrer chez lui. Tout le monde, y compris la presse, me critiquera. Et cela ne servira pas la cause de Mel. Tandis que si nous montrons que nous sommes prêts à aider la justice, nous obtiendrons de l'avocat général toutes les faveurs qu'il pourra nous accorder. Baker. Et alors, que faut-il que je fasse, moi ? Greenspan. Absolument rien, Al. Rien, m'entendez-vous ? Prenez patience, tout simplement. La patience n'était pas le fort d'Al Baker. Si l'avocat général était tout puissant, pourquoi ne pas faire pression sur lui par Abbé Casson, qui l'avait fait élire à ce poste ? Casson. Que voulez-vous donc que je fasse, Al ? Je peux vous assurer qu'ils ont rassemblé pas mal de preuves contre Mel, et qu'ils en ont déjà assez pour le faire comparaître devant le tribunal. Baker. Mais il n'est pas coupable, Abbé. Il me l'a assuré, et je le connais. Casson ne lui répondit même pas. Baker. Mais vous aussi vous connaissez Mel Bronstein ? Il est aussi doux qu'une femme. Il est incapable de tuer. Tout cela est ridicule. Casson. Des affaires de ce genre semblent toujours ridicules jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Et alors, elles ne le sont plus. Baker était de plus en plus amer. Baker. Évidemment, quand il y a une petite preuve qui manque, il la fabrique. Et s'il y a une lacune, il la comble. Bon Dieu, Abbé, vous savez bien comment cela se passe. Ils mettent tout le monde sur la trace. Ils ont un objectif et combinent tout pour y parvenir, jusqu'à ce que le pauvre type ne sache plus où il en est. Et pendant ce temps-là, le véritable assassin est libre. Casson. Encore une fois, que puis-je faire, Al ? Baker. Vous êtes copain-copain avec l'avocat général, d'après ce que vous dites. Vous devriez être capable de lui ouvrir les yeux, afin qu'il continue à chercher ailleurs. » Abbé Casson secoua la tête. Casson. « C'est le commissaire Lanigan qui s'occupe de l'enquête et non pas l'avocat général. Voulez-vous aider votre ami ? Allez voir le rabbin. » Baker. « Le rabbin ? Bon Dieu de bon Dieu. Et pourquoi donc ? Pour qu'il récite des prières en faveur de Mel ? » Casson. « Vous avez une grande gueule, Al. Mais c'est parfois la seule partie de votre tête qui fonctionne. Pour une raison quelconque, Hugh Lanigan a un très grand respect pour notre rabbin. Et ils sont même des amis. » L'autre jour, le rabbin et sa femme ont passé tout l'après-midi sous le porche des Lanigan, en train de bavarder et de boire tous les quatre, maris et femmes. Oui, comme je vous le dis. Baker. Le rabbin n'est jamais venu l'après-midi chez moi pour bavarder et pour boire. Casson. L'avez-vous invité ? Baker. Admettons que le commissaire soit son copain. Que peut-il faire pour moi ? Casson. Exactement ce que vous vouliez que je fasse auprès de mon copain, l'avocat général. Baker. Et vous croyez qu'il s'en donnera la peine, sachant que c'est moi qui ai tout arrangé pour le foutre à la porte d'ici ? Casson. Pensez-vous qu'il vous en tiendra rancune dans une affaire comme celle-ci ? Vous ne le connaissez pas, Al. Mais si vous me demandez vraiment conseil, et si vous voulez aider votre ami, je vous le répète, allez voir le rabbin. En l'apercevant, Myriam put difficilement dissimuler sa froideur. Le rabbin le reçut poliment. Mais Al Baker ne se laissa pas démonter par ce mur de glace. Les yeux étincelants, il regarda le rabbin d'un air de défi en affirmant. Baker. « Monsieur le rabbin, Mel Bronstein, n'a jamais été capable de commettre un crime pareil. Et il faut que vous fassiez quelque chose pour lui. » Le rabbin. « Tout le monde peut avoir commis ce crime, » dit le rabbin doucement. Baker. « Je sais, je sais. » « Ce que je veux dire, c'est qu'il est le dernier homme sur terre qui puisse assassiner quelqu'un. C'est un homme doux et bon, et il aime sa femme. Ils n'ont pas d'enfants, et ils vivent tous les deux l'un pour l'autre. » Le rabbin. « Savez-vous ce qu'on lui reproche ? » Baker. « Vous voulez dire qu'il court à droite et à gauche ? Et puis quoi ? Depuis 10 ans, sa femme se traîne dans un fauteuil roulant, avec une sclérose qui se généralise ? Pendant 10 ans, il n'a pu avoir avec elle aucun rapport. » Le rabbin. « Je ne le savais pas. » Baker. « Un homme en bonne santé a besoin d'une femme. Naturellement, vous êtes rabbin et... » Le rabbin. « Les rabbins ne sont pas castrés, monsieur Baker. » Baker. « Je vous demande pardon. Alors vous me comprenez. Les filles avec qui Mel peut sortir ne comptent pas pour lui plus que ça. » Il eut un claquement de doigts. Baker. Il coucha avec elle comme il se serait rendu dans une salle de culture physique pour se dépenser un peu. Le rabbin. Je ne suis pas sûr que l'analogie soit juste, mais cela importe peu. Que voulez-vous que je fasse ? Baker. Je ne sais pas. Vous êtes demeuré toute la soirée dans votre bureau. Vous pourriez peut-être dire que vous avez jeté un coup d'œil par la fenêtre, que vous avez vu une voiture sortir du parking et que ce n'était pas une Lincoln bleue. Le rabbin. « Me demandez-vous de faire un faux témoignage, monsieur Baker ?» Baker. « Encore une fois, pardonnez-moi. Je suis si bouleversé que je ne sais plus ce que je dis. Cette affaire me rend fou. Ce matin, j'ai raté une vente avec un client qui, depuis 10 ans, m'achète chaque année une Continentale. Nous nous étions mis d'accord samedi dernier, et il devait venir à midi signer le contrat. À midi, personne. » Je l'appelle et il me raconte qu'il veut réfléchir, qu'il prendra peut-être cette fois-ci une voiture plus petite. Et il n'a jamais travaillé aussi bien que cette année. Pendant 15 ans, Mel et moi avons lutté pour monter notre affaire. Et voici qu'en une journée, tout s'effondre. Le rabbin avait écouté froidement. Le rabbin. Est-ce votre affaire ou votre ami qui vous intéresse, monsieur Baker ? Baker. C'est le tout. Tout est mélangé dans mon esprit. Mel n'était pas seulement mon associé et mon ami, il était pour moi un plus jeune frère. Et quand on a lutté 15 ans pour bâtir quelque chose, ce quelque chose est plus qu'un gagne-pain. Oui, ça fait partie de moi. C'est ma vie. C'est pour moi ce que votre profession est pour vous. Vous comprenez ? C'est mon univers qui n'est plus le même. Le rabbin. Je vous comprends, monsieur Baker. Le ton du rabbin s'était radouci. Le rabbin. Et je désirerais vous aider. Mais vous n'êtes pas venu chez moi pour me demander d'apporter à votre ami une consolation spirituelle. Et le reste est impossible. Je crains que cette affaire n'ait troublé votre jugement. car vous comprendriez sans cela que même si je disais ce que vous m'avez suggéré de dire, la police ne me croirait pas. Baker. Je le sais bien, et c'est pour cela que je me désespère, monsieur le rabbin. Mais vous devez pouvoir faire quelque chose. Vous êtes son rabbin, n'est-ce pas? Le rabbin. J'ai cru comprendre qu'on m'a fort critiqué pour gaspiller mon temps dans des affaires qui ne relevaient pas essentiellement de la congrégation. Et je crois savoir que monsieur Bronstein n'en est pas membre. Du coup, Baker explosa de rage. Baker. Et après? Est-ce que cela signifie que vous ne pouvez pas ou ne devez pas l'aider? Il est juif, n'est-ce pas? Il est quand même membre de la communauté juive de Bernard's Crossing, et vous êtes le seul rabbin sur place. Vous pouvez au moins aller le voir, voyons. Ou alors rendre visite à sa femme. Ils ne font pas partie de la congrégation, dites-vous. Mais moi, j'en fais partie. Aidez-moi. Le rabbin. En fait, dit doucement le rabbin, j'ai déjà pris rendez-vous avec madame Bronstein. Et au moment où vous sonniez, je faisais une première démarche pour m'entretenir avec son mari. Baker était loin d'être stupide, et il parvint même à sourire. Baker. J'ai compris, monsieur le rabbin. Je méritais cette leçon. Qu'avez-vous l'intention de faire? Le rabbin. Le commissaire Lanigan a passé ici quelques minutes à l'heure du déjeuner. Il m'a parlé de l'affaire. Depuis, j'ai pensé qu'on peut interpréter autrement les éléments sur lesquels il se fonde pour accuser Bronstein. Mais je ne connais pas votre ami pas plus que sa femme. Aussi ai-je pensé qu'il me fallait d'abord les voir, leur parler. Baker. Vous ne rencontrerez jamais de gens aussi merveilleux, monsieur le rabbin. Le rabbin. Vous savez comment fonctionne un service d'État, monsieur Baker? Et la police en est un. Une fois qu'ils ont trouvé un suspect, ils concentrent leurs efforts sur lui. J'ai pensé que je pourrais convaincre le commissaire de poursuivre l'enquête dans une autre direction. D'un seul coup, Baker fut transporté d'enthousiasme. Baker. C'est justement ce que je viens de dire. Mais oui, ce sont les mots mêmes que j'ai employés en parlant à Abbé Casson. Vous n'avez qu'à lui demander. Eh bien, dès maintenant, je me sens mieux.